forêt, nos différences.
Il est 19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par le groupe Angevin d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM, un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette émission consacrée aux droits humains. Eh bien, ce soir, j'animerai l'émission avec Erika. Bonsoir à toi.
Bonsoir.
Bonsoir également à Pierre, à la technique.
Bonsoir.
Dans cette émission, nous accueillerons Annabelle de l'association Trait d'Union. Nous parlerons également de l'actualité et nous finirons par l'agenda militant et culturel. Mais commençons tout d'abord par ton éditorial, Erika. Ces derniers mois, la laïcité est revenue au cœur du débat public. Mais dans quel sens va-t-elle aujourd'hui ?
Dans un sens inquiétant. En France, la laïcité est depuis plus d'un siècle le socle du vivre ensemble républicain, garantissant la neutralité de l'État et la liberté de croire ou de ne pas croire, les deux. Pourtant, aujourd'hui, ce principe est régulièrement détourné pour justifier des mesures restrictives qui visent principalement les femmes musulmanes. Ce glissement est le fruit d'une instrumentalisation politique où la laïcité est brandie non plus comme un principe d'égalité, mais comme une arme pour légitimer des discriminations. Amnesty International a d'ailleurs vivement réagi à ce phénomène en rappelant que l'obligation ou l'interdiction de porter des signes religieux ou culturels, comme le foulard, viole les droits à la liberté d'expression, de pensée, de religion et de conscience des femmes.
Et tu fais référence à des décisions récentes ?
Je pense à l'interdiction du voile dans les compétitions sportives récemment validées par le Conseil d'État. Cette décision a suscité de vives critiques, notamment de la part d'Amnesty International. J'avais déjà parlé de l'excellent dossier qui avait été publié sur l'interdiction du voile pendant les derniers Jeux Olympiques.
Et pourquoi cette position est-elle si fermement condamnée ?
Parce qu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux des femmes en France. Amnesty International considère que les femmes doivent avoir la liberté de choisir leur tenue vestimentaire, qu'il s'agisse de porter ou de ne pas porter un foulard. Toute contrainte, qu'elle vienne d'une obligation ou d'une interdiction, constitue une violation de l'autonomie corporelle et de la liberté de conscience.
Pourtant, certains défendent ces interdictions en affirmant qu'elles protègent les valeurs républicaines, et la neutralité. Que répondre à cet argument ?
Il faut rappeler que la neutralité religieuse concerne les institutions publiques, pas les individus eux-mêmes. Les sportifs qui participent aux compétitions ne représentent pas l'État, mais elles-mêmes ou leur club. Amnesty International insiste sur le fait que restreindre leur tenue revient à leur interdire l'accès à des espaces de représentation sociale ou sportive, les excluant ainsi d'activités collectives.
On entend souvent dire que ces mesures protègent les femmes de pressions religieuses. Que dit Amnesty à ce sujet ?
Amnesty reconnaît que certaines femmes subissent des pressions ou des coercitions pour porter un voile dans certains pays comme l'Iran ou l'Afghanistan. L'organisation soutient d'ailleurs des militantes qui combattent ces obligations, comme les défenseurs des droits humains iraniennes qui luttent contre les lois liberticides sur le port obligatoire du voile. Mais ce que dénonce Amnesty en France et en Europe, c'est la confusion entre la protection des droits et l'imposition d'interdictions qui privent les femmes de leur autonomie. En d'autres termes, lutter contre les pressions ne signifie pas imposer de nouvelles contraintes.
Donc, selon Amnesty, interdire le voile revient à commettre une nouvelle violence contre les femmes.
Exactement. Comme l'affirme Amnesty International, définir à la place des femmes le sens de leurs vêtements et leur imposer un code vestimentaire est une forme de violence symbolique. Plutôt que de libérer, ces mesures assoient un contrôle supplémentaire sur le corps des femmes et sur leur capacité à choisir librement.
Alors, comment lutter contre ce détournement idéologique sans tomber dans le piège de la stigmatisation ?
D'abord, reconnaître qu'aucune laïcité ne peut exister sans respect des droits humains. Revenir aux fondamentaux, la laïcité protège les libertés individuelles et garantit la neutralité de l'État, pas celle des citoyens. Ensuite, cesser d'instrumentaliser ce principe pour exclure. Et surtout, soutenir les femmes dans leur autonomie, pas à leur place, mais à leur côté. Le travail d'Amnesty International va dans ce sens en défendant un principe de liberté qui repose sur le droit de chacun et chacune de s'exprimer sans contrainte. Défendre une laïcité inclusive qui protège les libertés de tous, pas seulement celles d'une majorité. Interpeller les responsables politiques en sensibilisant l'opinion publique et en soutenant les associations qui militent pour la liberté de choix. Chaque fois qu'une liberté est menacée, il faut répondre par la solidarité et la mobilisation citoyenne.
Un dernier mot ?
Écoutez celles qu'on veut faire taire. Soutenez leur liberté de choix. Engagez-vous pour une laïcité qui libère et qui protège. Revenez en fait aux idées qui ont présidé à sa mise en place. Informez-vous, échangez, refusez les amalgames, parce qu'il ne s'agit pas de défendre une idée abstraite, mais des vies concrètes, et parce que le combat pour les droits des femmes ne se gagne jamais en leur ôtant la parole.
Merci Erika. Vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Annabelle de l'association Trait d'Union, une association angevine. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Bonsoir.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'association?
Alors l'association est un espace de vie sociale. On est situé sur le quartier du Grand Pigeon. On accueille des familles, des parents. On a une laverie sociale. On a des ateliers parents, des ateliers parents-enfants.
Et ces ateliers parents-enfants, ils consistent en quoi exactement?
Alors, c'est des temps où les mamans ou papas peuvent passer du temps justement avec leurs enfants pour faire soit des sorties, des jeux, discuter, échanger. Et où il y a des professionnels qui sont là pour les accueillir.
Quel type de sorties? Tu peux donner des exemples?
Alors, ça peut être des sorties, là, on a Terra Botanica de proposer. Autrement, ça peut être des sorties angevines dans des parcs, des sorties locales. On a également, on est en partenariat avec la Charte Culture et Solidarité. Donc en fait, on peut emmener des familles voir des spectacles pour 2 €. Voilà, quelques exemples.
Et je crois aussi que vous organisez des sortes de camps d'été, mais que là déjà c'est tout rempli.
Voilà, donc on va avoir sur la première semaine de juillet un séjour à Saint-Jean-de-Mont, où on va avoir 8 familles qui vont partir. Donc il nous reste une place, voilà, pour une famille de 4. Et donc ils vont partir une semaine au bord de mer.
Tout ça, ça demande un peu d'argent. Vous avez des subventions peut-être?
Alors, on a des subventions du département, du CCAS, de la CAF, principalement.
C'est fonction, je suppose, du revenu des familles?
En fonction du revenu des familles et en fonction des actions menées pour le public.
Il me semble avoir vu dans un petit fascicule Conseil citoyen Angers que vous donniez également des cours de français.
Oui, c'est pas vraiment des cours de français. Enfin, l'intervenante aime pas trop quand on dit cours parce qu'on est plus sur de la pratique orale. Voilà, ça a lieu le lundi après-midi au Page, sur le quartier.
Oui, c'est de la communication, apprendre à se débrouiller.
Voilà, c'est ça, comment faire ses courses au marché, communiquer avec un médecin, voilà, donc avec des exercices en pratico-pratique.
D'accord, et pour toutes ces activités, donc il y a vous, évidemment, il y a aussi des bénévoles, des soutiens?
Alors, on a des bénévoles sur... le contrat local d'accompagnement à la scolarité, ce qu'on appelle le CLAS, où là on a 10 de bénévoles. Ensuite, on a des bénévoles au niveau du conseil d'administration et qui sont là, d'autres bénévoles pour nous aider lors de temps forts. Et ensuite, on est une équipe de 4 salariés.
C'est une association qui existe depuis combien de temps?
Depuis la fin des années 90, 98, il me semble.
D'accord. Il me semble avoir lu également qu'il y avait une laverie.
Oui, on a une laverie sociale, donc. On a 3 machines à laver, 3 sèche-linges, donc des machines de 13 kilos. On peut venir aussi laver son tapis. Voilà, donc pour une machine de 13 kilos, ça coûte 3 € plus 80 centimes pour la dose de lessive. Et pour sécher son linge, c'est pareil, 3 €. Donc faut pas hésiter.
D'accord, et vous en profitez pour toucher le public qui vient laver son linge? Il y a des gens qui sont là présents ou c'est uniquement la laverie qui fonctionne?
Alors on a une équipe de salariés qui sont présents, donc on a Aïcha qui est en arrêt pour l'instant, qui est remplacée par Mariam, qui est là justement pour accueillir au niveau de la laverie et accompagner les personnes et pour enclencher les machines. On a également Ludo, qui est un poste adulte relais médiateur scolaire, qui est là pour l'accueil dans la structure et également le classe. Et on a Catherine qui est animatrice famille pour tout ce qui est atelier parents et atelier parents-enfants.
Alors, je crois que vous êtes situé rue de Jérusalem. Alors, comment ça se passe une journée? Vous êtes ouvert peut-être tous les jours, le matin, l'après-midi?
Alors, on est ouvert tous les après-midi de 14h à 17h, sauf le vendredi où on est de 15h30 à 17h. Et on est ouvert également le lundi et le jeudi de 9h à midi.
Donc, toute personne, tout habitant, alors c'est le quartier donc plutôt Grand Pigeon, c'est ça?
C'est ça. Et après, tout habitant du quartier du Grand Pigeon, Angevin ou d'ailleurs, sont les bienvenus dans notre structure.
Est-ce que vous avez des assos partenaires particulières?
Alors, on travaille avec l'association des Banchets, on travaille avec le centre Marcel Menet, la régie de quartier, l'APF, la Fève.
La Fève, peut-être c'est?
La Fève, alors ce sont des jeunes qui sont en colocation. Des jeunes qu'on appelle les capseurs, qui font des animations sur l'espace public. On travaille avec les associations de l'ensemble du quartier.
Est-ce que tu as envie de mettre en avant une action, plusieurs actions qui vont bientôt se mettre en place?
Alors on va avoir, là on va participer à Quartier de Printemps, donc ça va avoir lieu sur le mail Passe-Croix, avec les partenaires justement du quartier, où il va y avoir des animations gratuites tous les après-midi du 9 au 11 juillet. On va avoir des spectacles et on est sur le thème de la kermesse. Donc il va y avoir des grands jeux, enfin plein de jeux prévus pour petits et grands. avec des lots à gagner.
Tu peux redire la date ?
Du mercredi 9 au vendredi 11 avril.
T'as dit juillet tout à l'heure.
Ah, pardon, avril. Avril.
D'accord, avril.
Avril.
Et le mail, c'est celui qui se trouve entre l'école Fratellini et la ludothèque. Qui est
et le centre Marcel Menet.
Et oui. Le fameux centre Marcel Menet.
Voilà, c'est ça.
Très bien.
Et comment fait-on pour vous contacter ?
Alors, soit venir directement au 50 rue de Jérusalem, soit nous appeler au 02 41 43 16 15, 02 41 43 16 15, ou nous contacter par mail à asso-6-d-union@wanadoo.fr.
Je le redirai pas à la fin. Bah, merci beaucoup, Annabelle.
Bah, merci à vous.
On se retrouve après une pause musicale.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte de qué sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2, 60 años, trancada dominó. Ah, bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó, hey.
Tu 5-9,
ya se acabó,
ah, hey. 60 años, trancado dominó, mira.
Se acabó, hey.
Tu 5-9, yo doble 2,
ya se acabó,
hey. 60 años, trancado dominó.
Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que hoy son nada.
No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es distante? Si mi Cuba es de toda mi gente.
Se acabó,
ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio.
Ya se acabó,
ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo.
Se acabó,
y no tenemos miedo, se acabó el engaño.
Ya se acabó.
Vivimos con la incertidumbre del pasado plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos. Izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrijo Quiola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo, y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa.
Seguimos
puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan. Se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando.
Patria y vida, patria y vida, 60 años.
venez d'écouter Patria y Vida, un chant militant d'un collectif cubain de 2021 en protestation d'une loi qui imposait aux artistes de soumettre leurs projets à l'État. De retour dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM, c'est bientôt l'heure des actualités, mais avant, découvrons la chronique de l'antenne jeune Angevine d'Amnesty, écrite ce mois-ci par Ilana.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs, aujourd'hui j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'on peut toujours parler de guerre quand ce ne sont plus vraiment des humains qui la font? Parce que la guerre à l'origine, c'était un affrontement entre êtres humains. Violent, oui. Tragique, bien sûr, mais humain. La guerre, dans sa forme la plus primitive, a toujours été la négation de la vie. Mais aujourd'hui, à l'ère de la technologie omniprésente, une nouvelle forme de guerre prend forme. Une guerre sans visage, sans corps, menée non par des soldats humains, mais par des machines froides, dénuées de toute âme. Des drones autonomes, des robots tueurs, programmés pour agir sans doute, sans compassion, sans pitié. Science-fiction, non, réalité. Et cette réalité est déjà là, à nos portes. Ces drones tueurs ne sont pas des concepts théoriques, mais des machines concrètes, opérant dans des zones de guerre, survolant des champs dévastés et des villes en ruine. D'un simple clic, elles décident du destin des vies humaines. Un homme, une femme, un enfant. Ces machines ne connaissent ni clémence, ni justice. Elles frappent sans avertissement, sans émotion. Mais qui pourrait leur en vouloir ? Elles ne sont que des programmes, des suites d'instructions implacables. Mais alors, qui porte la responsabilité? L'homme qui a conçu ces machines sans cœur? Ou la machine? Où est la frontière? Où sont les limites de cette intelligence artificielle? Que sommes-nous prêts à sacrifier au nom de la technologie? À quel prix acceptons-nous la liberté? Et à quel prix acceptons-nous la vie? Il y a un autre aspect tout aussi inquiétant. La surveillance omniprésente, l'IA, en guerre comme en temps de paix, transforme chaque action en données analysables, chaque mouvement humain en point d'observation. La militarisation de la surveillance nous plonge dans un monde où la vie privée n'existe plus. Nos gestes, nos choix, nos interactions, tout est scruté, jugé et parfois utilisé contre nous. Dans ce monde, nous devenons les sujets d'un contrôle invisible, systématique et insidieux. Et tout cela, prétendument pour notre sécurité. Mais à quel prix? À quel moment la sécurité se transforme-t-elle en oppression? La technologie, cette promesse de liberté, ou peut-être une illusion, qui décide de la vie, de la mort, qui trace la ligne entre l'innovation et le contrôle absolu? Aujourd'hui, nous nous trouvons à un carrefour décisif. Un carrefour où nous devons choisir. Un avenir dominé par des machines dénuées de toute compassion, ou un avenir où, malgré nos erreurs et nos imperfections, l'humanité conserve sa place, maîtresse de son destin. Car à la fin, peut-être qu'il n'y a qu'une vraie question. Qu'allons-nous, les humains, décider? Je vous remercie.
Merci beaucoup, Ilana. C'est maintenant l'heure des actus d'Amnesty International et des droits humains.
Le 22 mars dernier, un grand rassemblement a réuni à Angers 1400 participantes et participants, à l'appel de nombreuses associations, dont Amnesty. L'objectif, défiler ensemble dans le cadre de la journée internationale de lutte contre toutes les discriminations et montrer notre engagement et notre solidarité face à la montée des idées nauséabondes de l'extrême droite. Dans la petite ville de Chalonne, 250 personnes étaient présentes. Pour info, une pétition est en cours à Chalonne contre l'installation au marché d'un commerce réputé proche d'un collectif angevin d'extrême droite.
La trêve à Gaza est rompue. Dans la nuit du 17 au 18 mars, les autorités israéliennes ont lancé une attaque massive contre la bande de Gaza occupée. Toute l'enclave a été visée. Le bilan humain est terrible, les dégâts matériels considérables. Israël impose un siège total à Gaza. Plus aucun camion d'aide humanitaire, plus aucun bien de consommation courante, plus aucun médicament n'est autorisée à entrer dans l'enclave. C'est une violation flagrante du droit international. Les autorités israéliennes ont également coupé l'approvisionnement en électricité de la principale usine de dessalement d'eau de Gaza. Les autorités israéliennes ont commis et continuent de commettre un génocide contre les Palestiniennes et les Palestiniens de Gaza.
Un séisme de magnitude 7.7 a frappé le Myanmar le 28 mars dernier. Le centre du pays, où se serait situé l'épicentre du séisme, était déjà ravagé par des attaques militaires aériennes et des affrontements entre des groupes de résistance et l'armée. Ce séisme intervient donc au pire moment pour le pays. Plus de 3 millions de personnes sont déplacées à cause du conflit armé qui fait rage. Plus d'un tiers de la population aurait besoin d'une aide humanitaire. Dans un pays où l'armée a interdit de nombreux organes médiatiques et où l'accès à Internet est restreint, il se peut que l'ampleur des dégâts soit encore très mal estimée. Toutes les parties doivent veiller en priorité à répondre aux besoins des civils, dont la vie a été bouleversée par cette catastrophe, et faire en sorte qu'ils aient accès sans entrave à l'aide dont ils ont besoin, sans aucune discrimination.
Un jury américain du Dakota du Nord a ordonné à Greenpeace, écoutez bien, de verser au moins 610 millions d'euros à la société de combustible fossile Energy Transfer, ayant jugé que l'organisation était responsable de diffamation et des actions de manifestants opposés à un oléoduc. Ce jugement accablant crée une série de précédents très préjudiciables au droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique et met en péril l'avenir même de Greenpeace. Il a également de graves conséquences pour les peuples autochtones ainsi que pour les défenseurs de l'environnement et les militants pour le climat. Il ne fait aucun doute qu'il aura un effet paralysant sur ceux qui font campagne pour dénoncer les actes répréhensibles imputables à de puissantes entreprises aux États-Unis et dans le monde entier.
Le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, a été interpellé le 19 mars au matin lors d'une opération visant plus d'une centaine de ses collaborateurs, d'élus et de membres de sa formation, le Parti républicain du peuple. İmamoğlu fait l'objet de deux procédures pour corruption et soutient une organisation terroriste pour son aide au PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. C'est le principal opposant à Erdogan à la présidentielle de 2028. Depuis, des milliers de personnes osent manifester pour dénoncer cette arrestation, malgré l'interdiction émise par les autorités.
En Syrie, des milices affiliées au gouvernement ont délibérément tué des civils de la minorité alaouite. La population syrienne a déjà enduré plus d'une décennie de graves atteintes aux droits humains et atrocités de masse commises en toute impunité par le gouvernement de Bachar el-Assad et des groupes armés. Les derniers massacres en date visant la minorité alaouite ouvrent de nouvelles blessures dans un pays portant déjà trop de plaies encore béantes. Il est indispensable que les nouvelles autorités veillent à ce que les victimes de ces crimes obtiennent la vérité et la justice afin de démontrer une rupture avec le passé et une tolérance zéro pour les attaques contre les minorités. Sans justice, la Syrie risque de retomber dans un cycle d'atrocités et de bains de sang.
Le 3 avril 2025, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a pris la décision de mettre en place un groupe de travail responsable de rédiger un traité international sur les droits humains des personnes âgées. En effet, malgré le nombre croissant de ces personnes dans le monde, leurs droits restent souvent ignorés. Il est grand temps de mettre en place un cadre législatif complet destiné à lutter contre la discrimination fondée sur l'âge. Il est plus important que jamais de véritablement reconnaître et protéger leurs droits.
Et pour finir, une bonne nouvelle. En Alabama, Rocky Meyers se trouvait dans le couloir de la mort depuis plus de 30 ans. Le cas de cet homme est emblématique de toutes les failles dans l'application de la peine de mort aux États-Unis. Mais il n'est pas libre pour autant car sa peine a été commuée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais c'est une première étape déterminante dans le combat pour la justice, pour lui et pour sa famille. Ils sont soutenus par des centaines de milliers de militants et militantes d'Amnesty dans le monde qui se sont mobilisés pour Rocky Meyers en envoyant des lettres, en passant des appels téléphoniques et en signant des pétitions. Et pour notre émission, aujourd'hui, vous avez droit à deux chansons. Vous allez pouvoir écouter le Métèque de Georges Moustaki.
Avec ma gueule de Métèque, de juifs errants, de pâtres grecs et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour.
Et nous sommes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM et c'est le temps de l'agenda militant et culturel.
Le 24 avril à 20h au 400 coups, soirée rencontre autour du film Made in Bangladesh. La réalisatrice Rubaiyat Hossein y relate l'histoire vraie d'une ouvrière textile de Dhaka à l'origine du premier syndicat de la femme au Bangladesh. Cette soirée est organisée dans le cadre de la Fashion Revolution Week à Langevin en commémoration de l'effondrement de l'usine Rana Plaza le 24 avril 2013 au Bangladesh.
Et le lundi 28 avril, toujours au 400 coups, allez voir L'amour et la forêt de Valérie Donzelli. C'est le portrait d'une femme et l'anatomie d'une emprise, mais ce film est bien plus qu'une fiction bien troussée sur un fléau de notre temps qui trop souvent conduit au féminicide. C'est une radiographie et un avertissement et un grand film de cinéma.
Le 1er mai, toutes et tous dans la rue. 4 manifestations sont prévues en Maine-et-Loire, à Angers, Cholet, Saumur et Segré. Au cœur des revendications de l'intersyndicale qui organise le rassemblement, la défense des droits sociaux et des libertés.
Et n'oubliez pas le rendez-vous chaque samedi à 15h, place du ralliement, pour exiger le cessez-le-feu permanent à Gaza et le respect du droit international. Il est déjà presque 19h30, c'est le temps de conclure cette émission et de remercier Annabelle pour sa venue. N'oubliez pas, Trait d'Union, c'est au 50 rue de Jérusalem. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter cette émission en replay sur le site www.radio-g.fr. Vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook à Amnesty.Angers. À très bientôt sur les ondes de Radio G.
Bonne soirée.
Au revoir.